J'ai besoin d'une formation qui me permettrait de développer mon activité, mais ma trésorerie est un peu serrée.
Mais attends, tu es bien comme moi, chef d'entreprise artisanale avec un statut de non-salarié ?
Oui, pourquoi ?
Parce que justement, tu contribues, tu peux demander une aide financière du FAFCEA. Va voir sur leur site fafcea.com ou contacte l'organisation professionnelle représentative de ton métier qui pourra t'aider.
RMC, les grandes gueules.
Louis Boyard, député NUPES du Val-de-Marne, une ancienne de nos GG. Bonjour Louis.
Bonjour.
Droit de vote des étrangers, proposition de loi de Sacha Houlier, le président de la commission des lois. En fumage, réelle conviction, qu'est-ce qu'on en pense ?
Le droit de vote des étrangers sur les élections locales, c'est une promesse historique de la gauche, c'est une proposition qu'on a dans notre programme. Donc même si elle est proposée par La République En Marche, à titre personnel, je la voterai. Mais je pense que c'est aussi un moment de vérité pour La République En Marche et pour Macron. Parce qu'on nous avait promis une autre méthode de travail, le compromis, le consensus. Pour le moment, j'observe que les mains tendues, il les a uniquement tendues au Front National. Sur la suppression de la redevance télé, sur l'expulsion des étrangers qui ont commis des délits. Et alors la gauche, on a refusé toutes nos propositions. Donc là, c'est peut-être le moment de vérité qui va permettre de montrer que Macron ne tend pas que des mains au Front National.
C'est-à-dire, mais est-ce que c'est sincère ? Parce qu'on voit déjà qu'il y a un désaccord entre Sacha Houlier et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Oui, ils sont pas d'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas de la manœuvre politique ?
Mais Gérald Darmanin n'est pas député de La République En Marche. Gérald Darmanin ne vote pas les lois. C'est les députés de La République En Marche qui votent les lois. Donc ils ont à avoir ce débat. Moi, en tout cas, je suivrai. Je crois qu'on est beaucoup à la France Insoumise et probablement à la NUPES qui seraient aussi prêts à voter cette loi. Et puis après, ils ont qu'à avoir leur débat en interne. Mais encore une fois, je dis que cette proposition de loi, c'est quelque chose qui
l'ensemble
est bien.
De la NUPES.
C'est une promesse historique de la gauche. L'ensemble de la NUPES, je ne sais pas encore parce que c'est encore très récent. Il y a des discussions qui vont avoir lieu. Mais c'est aussi peut-être un moment crash test pour La République En Marche, qui pour le moment, je le répète, n'a que fait des mains tendues au Front National.
Ça va s'inscrire dans le cadre du grand débat sur l'immigration promu par Gérald Darmanin. Est-ce qu'on va pas faire du en même temps ? C'est-à-dire qu'on va, on va durcir d'un côté la loi pour les étrangers, avec les délais d'expulsion des OQTF qui vont être raccourcis, et puis de l'autre, on va montrer que on plaide aussi en faveur de l'intégration,
le truc, c'est
en permettant de
vous
voter.
Vous l'avez déjà dit en fait, Gérald Darmanin, c'est lui qui a l'initiative de ce grand débat sur l'immigration. Gérald Darmanin et Sacha Houlier ne sont pas d'accord. Donc je me demande même si jamais le gouvernement va respecter sa majorité et si jamais ils vont mettre ça, ils vont en faire un projet de loi. Je le souhaite. Moi je souhaite que le gouvernement écoute ses députés de La République En Marche qui pour le moment ne servent qu'à voter ce que choisit de faire le gouvernement, que les députés de La République En Marche comprennent qu'ils ont aussi une responsabilité historique et qu'ils doivent arrêter de tendre la main au Front National et peut-être s'intéresser aux propositions de la gauche. Et puis voilà, après, ils auront leur débat en interne et ils assumeront leur choix.
Mais vous la voterez à titre personnel ?
Moi, à titre personnel, j'ai aucun problème à voter cette loi. Promesse historique de la gauche et proposition de notre programme.
Et c'est bien qu'il y ait un grand débat sur l'immigration à la rentrée ?
Non, mais attendez, vous avez pas à quel moment est-ce qu'on n'a pas assez parlé d'immigration ? Ça fait 5 ans qu'on fait que parler de l'immigration, on fait que ça parler d'immigration.
Non, ça fait
vous savez pourquoi est-ce qu'on va avoir un grand débat
ça
sur l'immigration ?
Ça fait 30 ans.
Parce qu'on va avoir un débat sur l'assurance chômage, probablement un débat sur les retraites, et qu'à chaque fois qu'on doit avoir des lois qui vont écraser les pauvres, on agite la haine et les peurs autour de débats sur l'immigration. Enfin, attendez quoi ? On a eu Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
Il y a eu Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle et 89 députés du Rassemblement.
Justement,
non,
c'est ça qui est
inquiétant. Un sujet prégnant pour les Français.
On passe notre temps à en parler. On n'arrête pas de voter des lois sur l'immigration. On fait que ça, ça résout pas les problèmes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on prend le problème par le mauvais bout. Et parce que, d'ailleurs, je pense que sur l'immigration, on est complètement à côté de la plaque. Il faudrait peut-être aussi réfléchir à comment est-ce que ça se sent une personne étrangère qui est devant sa télé et qui, à longueur de journée, se fait amalgamer, discriminer, stigmatiser par Darmanin et les députés du Rassemblement National. Non, mais il faut aussi peut-être se demander comment est-ce que ces gens, ils se sentent dans ce débat-là. Comment est-ce que ça se fait que dans les débats sur l'immigration, on n'ait jamais, jamais un seul sans-papier qui soit venu sur un plateau télé pour expliquer c'est quoi la réalité. Et vous savez quoi ? Je vais même vous faire une proposition. Là, vous tous qui êtes autour de ce plateau, j'aimerais vous inviter dans un CRA, dans un centre de rétention administratif. Allez visiter ce CRA-là. Vous avez déjà été visiter un CRA ?
Oui.
C'est la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Et je pense que beaucoup de Français devraient voir.
Découvrir la vie, mais on est beaucoup sur cette table à pas la découvrir.
Les gens, arrêtez de dire qu'on découvre la vie. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un CRA. Mais attendez, je vous permets pas. Ça fait des années que je me base sur ces sujets-là. Le problème des centres de rétention administratif, c'est en gros l'endroit où on met les personnes qui sont en situation irrégulière avant de les expulser. C'est un lieu fermé. On ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est qu'un centre de rétention administratif et on ne va pas leur en vouloir. Et je pense que c'est aussi nous notre responsabilité de montrer que le débat sur l'immigration, c'est avant tout un débat de souffrance. violence pour beaucoup de personnes.
C'est une obsession de Gérald Darmanin en ce moment.
Mais c'est pas une obsession, c'est un agenda politique. Gérald Darmanin passe son temps à marcher sur les plates-bandes du Rassemblement National.
Y compris sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen.
Mais bien sûr, là encore une fois,
il dit qu'il n'a rien à faire sur le sol français, l'imam.
Gérald Darmanin, c'est quelqu'un qui, c'est pas un politicien, c'est un politicien, c'est pas un ministre. Il passe son temps à faire du coup politique pour essayer d'exister. Voilà.
L'imam Iqiyoussen, il a sa place sur le sol français.
Excusez-moi, Alain, ce qui n'est pas votre cas, vous, à la France Insoumise. Vous, monsieur le député, ce n'est pas votre cas. De faire que des coups politiques, ce n'est pas du tout votre marque de fabrique.
Je vous laisse.
Premier jour à l'Assemblée nationale, vous ne serrez pas la main d'un député dans l'hémicycle, ce n'est pas un coup politique.
Parce qu'il y a 89 députés du Rassemblement national qui rentrent à l'Assemblée et tout le monde fait comme si c'était normal. Pardon, je ne trouve pas que ce soit une petite
politique. Vous êtes un politique, monsieur. Même vous, vous êtes un politique. Mais même vous, vous êtes
exactement de la même manière que Macron actuellement.
Vous êtes un politique. Ne me dites pas comme quoi Darmanin fait de la politique. Vous en faites tout autant.
Voilà.
Donc voilà. Maintenant, ne rejetez pas l'opprobre sur les gens alors que vous faites exactement la même chose.
Maintenant,
je vous pose une question. Pourquoi ce serait pas normal qu'il y ait 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée?
Ils ont été élus,
ces mecs. Mais c'est nana.
Mais à partir de. Je conteste pas le fait qu'ils soient élus. Je conteste pas le fait qu'ils siègent. Je constate juste que c'est un échec politique,
oui,
de la part de tous,
oui,
d'avoir 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée.
Oui. Et je constate que c'est... À commencer par votre tête de parti qui exerce depuis un âge où mon père et ma mère ne se connaissaient pas, et j'ai 45 ans, et qui est aussi lui co-responsable de ce qui se passe dans le pays. Il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur des gens comme si vous étiez
sur
absolument...
Cette affaire, c'est eux. Pardon, mais Jean-Luc Mélenchon, je l'ai jamais vu marcher sur les plates-bandes du Rassemblement National. Macron et Darmanin, ils font ça à longueur de journée.
Je l'ai vu très immobilier à Marseille et ailleurs.
Il y a aussi autre chose. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité autant des médias que des politiques. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que pour le moment, on est les seuls à le dire. À partir de quel moment est-ce que c'est devenu normal d'avoir 89 députés RN à l'Assemblée nationale? Pour tout le monde, c'est absolument normal. C'est pas un événement politique.
C'est devenu normal depuis que les gens se sentent complètement abandonnés par des cols blancs qui sont à des années-lumière de leur problématique.
Exactement.
C'est devenu normal depuis... À Marseille, on a eu catastrophe sur catastrophe. Le député, c'était Mélenchon. On l'a pas vu un jour. Il instrumentalise la mort de Zineb Redan à souhait. Je suis la porte-parole de la famille de Zineb Redouane. Donc je connais le corps de Zineb Redouane est resté 3 semaines bloqué à la morgue. C'est pas monsieur Mélenchon qui m'a aidé à le sortir pour le renvoyer à son fils Samy. C'est un député de la République en Marche qui s'appelle Saïd Amada, même si je peux pas le voir, je suis obligée de reconnaître qu'il a travaillé. Excusez-moi, on a eu 8 morts dans les effondrements de 2 immeubles. Il a pas été là un jour, il a pas présenté les condoléances aux familles, il nous a pas aidé quand on s'est battu contre le ministre qui était à l'époque monsieur de Normandie, etc., etc. Il a pas participé avec nous associatifs et personnes qui issues de la société civile aux réunions pour se battre, pour avoir une main comme ça tendue et une main forte qui s'est battue pour que les gens soient respectés, pour que les gens soient mis à l'abri. Donc moi, d'accord, je suis désolée, il y a 89 députés RN parce que des gens comme Mélenchon, et il n'est pas le seul, mais des gens comme Mélenchon ne font absolument rien à part parader dans les médias, de médias en médias, les médias qui critiquent ici et ailleurs, ils font que ça, ils ne font rien d'autre.
Je trouve que c'est un raisonnement assez simpliste.
C'est très réel en tout cas.
Parce que vous parlez par exemple du cas de Zineb Redouane, oui, vous parlez d'un député de La République En Marche. Est-ce que le député de La République En Marche a reconnu que la police était responsable?
Non,
est-ce qu'il a utilisé le terme de violence?
C'est pas le même cas.
C'est un autre. Moi, je suis pas marseillais, je suis du Val-de-Marne, donc je maîtrise pas forcément les cas de Marseille. Mais vous avez aussi la question du logement. Sur la question du logement, est-ce que La République En Marche porte une bonne politique logement pour empêcher que des logements s'effondrent? Est-ce que La République En Marche mène une politique du logement social? Non.
Vous demande, vous, en tant que député, votre tête de gondole, 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait à Marseille? Absolument rien. Bompard vient d'être élu. Le jour même, il a voté, il est parti, on l'a plus jamais revu sur le terrain. Donc non, je sais que c'est un mandat national, monsieur.
Bien sûr.
Mais il y a 89 députés racistes, pas racistes, mais en tout cas, voilà, issus d'un parti qui sont racistes. Issus d'un parti, parce que je pense qu'il y a des pauvres gens qui sont perdus aussi à l'intérieur. Il n'y a pas que des racistes. C'est facile de faire un amalgame. Il y a des racistes partout, monsieur. Moi, j'appelle Kaouter Ben Mohamed.
Oui.
Le racisme, je l'ai vécu de la part de gens de droite, de gauche, du FN et de partout. À chaque fois que je viens, on croit que je suis un mec déjà. On va commencer par le commencement. S'il y a 89 députés, monsieur, c'est parce qu'il y a un immobilisme de la part de ceux qui sont à la tête de ce pays et le FN n'a jamais été à la tête de ce pays. La droite et la gauche depuis 40 ans, qui fait que les Français aujourd'hui se sentent abandonnés sur des problématiques de base, se nourrir, se loger, se chauffer, l'éducation de leurs enfants. Et c'est pour ça qu'il y a 89 députés.
Je suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, d'autant que Jean-Luc Mélenchon s'est présenté, il a largement gagné l'élection. Bompard s'est présenté, il a ensuite gagné l'élection. Sur Marseille, j'ai vu par exemple le combat qu'ils ont mené avec les salariés de McDo sur Marseille. Je suis pas marseillais et pourtant je vois aussi
Et
d'ailleurs, je vois aussi
qu'on sortira du cas Mélenchon.
Vous avez un certain rapport à l'élection. J'ai vu que vous-même vous vous étiez présenté à une élection et vous avez votre position, vous la portez. Vous n'avez pas eu le suffrage et voilà.
Mais c'est normal. J'étais boycotté des médias. Si j'avais un débat, et je vous invite à faire un débat.
Allez, après, on va sortir de Marseille. Même là. Allez, alors, revenons sur Gérald Darmanin et sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen.
Voilà.
Est-ce qu'il a sa place sur le sol français? Gérald Darmanin dit il n'a pas sa place, il va être expulsé.
Justement, c'est justement l'erreur à ne pas faire. Quand je vous disais que Gérald Darmanin n'était pas un ministre, mais un politicien qui jouait des médias pour pouvoir avancer sur sa propre carrière, c'est exactement l'exemple. Je pense qu'il faut un moment poser la question des droits de l'homme et de la séparation des pouvoirs. Je ne pense pas que ce soit souhaitable dans notre pays qu'un ministre de l'Intérieur puisse, il y a un peu de procédure, mais à la fin c'est lui qui prend la décision, expulser tout seul une personne qui n'est jamais passée devant un juge et qui n'a jamais été condamnée. Et attendez, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Il a tenu des propos homophobes, il a tenu des propos sexistes, il a tenu des propos antisémites. Cette personne doit être mise devant un juge. Elle ne doit pas être mise devant Gérald Darmanin qui fait un coup politique pour derrière justifier quoi ? Justifier que dans sa prochaine loi, on lui donne encore plus de pouvoir. Non mais c'est ça la question, c'est ça le débat de fond.
Il est d'accord avec lui, mais c'est la process qui ne te va pas.
Mais moi je pense que lui, il devrait aller devant un juge. Voilà, je pense qu'il devrait aller devant un juge.
Devrait être traduit devant
mais si vous tenez des propos antisémites, sexistes et homophobes, c'est normal que vous soyez jugé. Aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est d'avoir un ministre de l'Intérieur qui essaie d'avoir encore plus de pouvoir et qui crée des faux débats médiatiques pour derrière justifier qu'on lui donne encore plus de pouvoir.
D'accord. Alors, Louis, mais là, Louis, t'es dans la guerre contre Darmanin et contre la majorité. Ok, mais sur le fond, tu nous as parlé que t'allais en centre de rétention. Combien il y en a, t'es député de la République maintenant? Combien il y a de gens en situation irrégulière qui sont reconduits à la frontière tous les ans? Combien il y en a? Combien il y a de gens qui sont illégalement sur le territoire français, qui sont condamnés et qui sont renvoyés chez eux? Combien il y en a? Parce que s'il y a 89 députés, c'est aussi parce que les gens, ils en ont marre de ça. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui est attrapé ou condamné pour un délit, il est jamais reconduit à la frontière, quoi.
C'est pas, alors ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que c'est jamais le cas.
Et
d'ailleurs,
c'est...
attendez.
Personne arrêtée en centre de rétention à Paris, il y a eu 22 reconductions à la frontière.
Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie ces gens-là dans un pays qu'ils ont quitté parce que justement, ils n'arrivaient pas à y survivre. C'est très facile, nous qui sommes posés dans nos sièges de chroniqueurs ou de députés, de dire qu'on devrait expulser ces gens-là sans soucier de ce qui leur arriverait à l'avenir. D'autant que sur l'immigration, avec le réchauffement climatique, vous allez avoir 87 millions de personnes qui n'auront plus d'eau, qui n'auront plus rien à manger. Ces gens-là, on en fait quoi? On continue de maintenir la politique qu'on est en train de tenir? Non mais la question de l'immigration.
Mais on en fait quoi? On va au bout, quoi.
Mais je vais vous dire, on continue
à garder la frontière pour les Anglais, quoi. Moi j'ai un copain qui est paysan au ras de Sangatte, quoi.
Ouais.
Mais leur vie, elle est plus possible, quoi.
Bien sûr.
Elle est plus possible, leur vie.
Sur l'immigration, on n'arrête pas d'avoir des débats réactionnaires, des débats déconnectés de la réalité, à la fois des Français qui derrière doivent se retrouver avec des gens qui vivent dans des situations absolument déplaisantes, dans des camps. Il faut appeler les choses comme ça. Et il y a des gens qui en souffrent, et à la fois les personnes qui le vivent. Et ça va être un problème qu'on va avoir encore plus. 87 millions de personnes qui auront plus d'eau. On fait quoi de ces gens? Et aujourd'hui, le seul débat qu'on a, c'est de dire qu'on n'en reconduit pas assez. D'autant que, pardon, hein, mais on nous dit qu'on n'a pas les moyens. On a les moyens. De l'argent, il n'y en a jamais eu autant en France. Mmh. Non, mais c'est vrai. Bernard Arnault. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Je suis triste qu'on en parle. On peut parler inflation un petit peu?
C'était ma prochaine question. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout augmente cet été. On en a parlé tout à l'heure. Avec des témoignages de personnes qui, au 10 du mois, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il va y avoir une rentrée compliquée.
Exactement.
Au niveau de ce qu'il y aura à payer de toutes les manières.
Exactement.
Mais le gouvernement a prolongé l'échec énergie, l'échec inflation jusqu'à la fin de l'année. Il y a des dispositifs qui sont mis en place.
Je pense qu'il est nécessaire de faire un petit point d'information. Une loi pouvoir d'achat a été votée et elle ne compensera pas l'augmentation des prix. Il faut que les Français sachent qu'ils vont perdre en pouvoir d'achat avec la loi pouvoir d'achat. D'autant que cet argent-là, il sort d'où? C'est de l'argent des Français. C'est de l'argent public, c'est de la taxe, c'est des impôts. On a pris dans la poche droite des Français pour la mettre dans la poche gauche. C'est pour ça que nous, ce qu'on demandait, c'était pas uniquement une loi sur le pouvoir d'achat, c'était une loi sur le partage des richesses. Parce qu'il y a des chiffres dont on parle assez peu. Mais là, aujourd'hui, les Français, on souffre à cause de la crise du Covid et à cause de la crise inflationniste. Vous avez des gens qui en profitent de cette crise. Bernard Arnault, il avait 60 milliards, une fortune de 60 milliards avant le Covid.
Il les a pas en
vous
poche,
savez, elle est combien?
Mais, il les a pas en
non, mais
poche,
c'est de la fortune.
Milliards.
Mais derrière, il en a quand même dans la poche.
Capitalisation aussi de ce entreprise qui s'appelle LVMH, qui est un leader mondial.
Et la capitalisation, 60
milliards qu'il a dans la poche.
Derrière, il a quand même de l'argent dans la poche. Vous savez, il est passé de 60 milliards à 180 milliards. Bettencourt, elle est passée de 40 milliards à 80 milliards. Ce que je veux dire, c'est que ça fait deux ans
c'est
que
le
nous,
les
Français,
luxe qui se
on
porte
se serre
bien,
la ceinture ouais. Et que derrière, les grands milliardaires du luxe, ils triplent, voire ils doublent leurs profits. Enfin, j'ai un autre exemple à vous donner. Le prix
capital.
De l'essence, le capital.
Leur capital.
Oui, le capital. Mais derrière, il y a des profits.
C'est faux, c'est leur capital.
Non, le profit suit derrière. Le profit suit. Là, j'énonce le capital.
Que tu viens mais sachez, c'est le capital.
Mais très bien, allons-y sur les profits. Le prix de l'essence, il a quasiment doublé. d'accord ? Les profits totaux, ils ont quasiment triplé.
Oui, mais.
Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce que c'est possible ?
Total paye ses impôts sur ce qu'il fait en France.
Mais, ah oui ?
Et Total fait de l'extraction et de la production, surtout à l'étranger. Donc il paye des impôts à l'étranger.
Exactement.
Et, bah oui, mais il fait du raffinage derrière, en France.
Et derrière, c'est les Français qui payent.
Mais non, les stations Total, pour la plupart, sont des franchisés qui eux-mêmes payent des impôts sur l'essence et l'état en France.
Donc en fait, finalement. Les prix augmentent, mais en fait finalement il n'y a pas assez d'argent. Bernard Arnault, il a 180 milliards de capitalisation. Tout ça triple, mais il n'y a pas assez d'argent en France. Ces gens-là, on leur a pris. Non, mais c'est important de le dire.
Je suis en train de vous dire qu'il y a des milliers de députés.
Mais dans tout ça, vous savez combien est-ce qu'on a pris à ces gens-là?
Non, non, juste une question. On est dans un pays communiste. Peut-être qu'en 2022, je suis pas au courant. Je vous pose une question, s'il vous plaît. Monsieur le député.
Ouais.
Vous êtes député.
Je suis député.
Je vous pose une question.
Très bien.
Sommes-nous dans un pays communiste ?
Nous sommes dans une république.
Est-ce que nous sommes. Répondez à ma question, s'il vous plaît, monsieur le député. Sommes-nous dans un pays communiste ?
Écoutez.
Oui ou non ?
Monsieur le chroniqueur.
Non, je suis chef d'entreprise. Je vous arrête tout de suite, monsieur le député. Moi, je suis pas chroniqueur. Je vais pas en faire une vocation. Si j'ai pas resté des années.
Dans l'affaire.
Vous êtes même pas au courant. Ne parlez pas de choses que vous savez pas. Parce que vous savez pas ce qu'on fait de mon cachet ici. Je vous demande, sommes-nous dans un pays communiste? Non, on l'est pas. Donc pourquoi vous me parlez de la fortune de Bernard Arnault, de la fortune de Total, de la fortune de X ou de Y? Est-ce que vous croyez que maintenant, vous allez demander à des chefs, laissez-moi finir s'il vous plaît, vous allez demander à des chefs d'entreprise de payer tout ce qu'il faut pour vous satisfaire à votre demande de d'économie que vous voulez vous mettre en place qui n'est pas faisable. L'économie que vous demandez à l'LFI n'est pas faisable, n'est pas tenable. Économiquement, ce n'est pas logique.
Vous êtes en train
d'apprendre le texte par cœur de Mélenchon. Vous apprenez le texte. On a reçu Mathilde Panot la semaine dernière. Êtes en train d'apprendre le texte par cœur, mais vous ne savez pas l'exprimer, vous ne savez pas l'expliquer, vous n'y croyez même pas. Mais quand vous parlez, ça se voit que vous n'y croyez pas à votre texte. Je vais vous expliquer pourquoi
en deux mots. Ça se voit.
Ce que vous dites, ce n'est pas plausible économiquement. Non, mais Bernard Arnault, il a 180 milliards. L'autre, il a 60 milliards. L'autre, il a 20 milliards.
Écoutez-moi, monsieur, vous êtes servile. Vous êtes un chef d'entreprise, je suis en train de vous parler de chef d'entreprise du CAC 40, vous les défendez.
Mais je ne défends pas ces chefs d'entreprise, je suis en train de défendre le système, je suis en train de défendre le système économique, modèle français qu'on est. C'est tout, je m'en fous de Bernard Arnault, je m'en fous de Total. Je suis en train de vous dire que ce que vous dites, ce n'est pas applicable. Tout simplement.
Nous avons de la fin. Écoutez, il y a 300 économistes qui appuient le programme. Pardon, mais ces gens-là sont des docteurs. Ce sont des personnes qui maîtrisent parfaitement le sujet. Vous pouvez pas faire comme si jamais elles n'existaient pas. Monsieur, vous n'êtes pas un chef d'entreprise.
Il y en a 20 000 qui disent le contraire de ce que vous dites, monsieur.
Les PME et les TPE dans ma circonscription, elles sont prises à la gorge. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement peu de moyens qu'ils vont uniquement dans la grande distribution. Et les petites et moyennes entreprises, elles s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que les Français perdent en pouvoir d'achat. Donc, monsieur, peut-être que secrètement vous êtes un chef d'entreprise du CAC 40, mais si vous voulez vraiment penser à l'intérêt des Français et des petites et moyennes entreprises, lisez le programme qui a été soutenu par 300 économistes.
Il y en a à peu près 40 000 économistes qui ont dit que c'était une ineptie votre programme.
Bonne journée.
Bonne journée.
Et à demain.
Excellente journée.